Bonjour, vous écoutez Historaba, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 23 novembre 1944, Leclerc libère Strasbourg. Cette épopée militaire débute le 2 mars 1941 à Koufra, une oasis du désert libyen, où le colonel Leclerc prononce son célèbre serment. Nous ne nous arrêterons que lorsque ce drapeau flottera aussi sur Metz et sur Strasbourg. C'est le premier message de victoire et d'espérance après les heures noires de la déroute et de l'abandon. Après la prise de Paris, le 25 août 1944, c'est à Baccara que le général Leclerc imagine la percée des Vosges. Il est décidé de passer par Dabo pour rejoindre Vaslone. Son plan est audacieux. Il semble même irréalisable. Pourtant, le chef de la 2e division blindée l'adopte non sans panache. Le 21 novembre, à 9h30, le lieutenant-colonel Jacques Massu arrive à Dabo à la tête de sa colonne. Il détruit une batterie de l'artillerie allemande. À 11h, il franchit le col de Walsberg. 2 heures plus tard, il débouche dans la plaine d'Alsace. Dans la soirée, il s'empare de la Petite Pierre. Le 22 novembre, le lieutenant-colonel Marc Rouvillois atteint la route de Weiterswiller. Devant Neuwiller-lès-Avernes, il se heurte à une vive résistance allemande qui retient son sous-groupement durant plus d'une heure. À 11h, il s'engouffre sur la route de Steinbourg, où il détruit un long convoi de véhicules et s'empare du pont du canal de la Marne au Rhin. Dans l'après-midi du 22 novembre, les colonnes commandées par Rouvillois et Massu effectuent leur jonction à proximité de Saverne. Massu s'empare de la ville, il fait 800 prisonniers, avant de franchir le col en direction de Phalsbourg. Les troupes américaines peuvent maintenant se diriger vers l'Alsace. Au château de Birkenwald où il réside, Leclerc fête son anniversaire, il a 42 ans. Au matin du 23 novembre, 5 colonnes de chars se ruent vers Strasbourg. Au nord, Rouvillois emprunte la vallée de la Zorn par Orfelden et Brumath. 3 colonnes occupent le centre du dispositif. Massu passe par Fettisheim et Niederhausbergen. Le commandant Émile Cantarel par Landersheim, Wiversheim et Oberhausbergen. Et le lieutenant-colonel Joseph Pütz par Küttelsheim, Quatzenheim et Königshofen. Plus au sud, la colonne du commandant Pierre Debray se dirige vers Lingolsheim et Ilkirch-Grafenstaden. Une pluie fine tombe sur Strasbourg, qui est survolée à basse altitude par des avions de la Royal Air Force. À 7h15, les chars de la division Leclerc entament leur ultime progression vers la capitale alsacienne. Il leur reste 35 km à parcourir. En tête, le char Évreux ouvre la route. Il est suivi du Gemilla. À Mommenheim et à Brumath, les Français rencontrent une faible résistance allemande. Le génie désamorce les mines placées sur les ponts qui franchissent la Zorn. Les blindés français arrivent à Vendenheim à 8h30. À Mundelsheim, les Allemands tirent 2 coups de Panzerfaust, l'équivalent du bazooka, sans toucher leur cible. Ici, l'opposition est de courte durée. Dans Schiltigheim, les chars mitraillent sans ralentir leur vitesse. La route se couvre de cadavres. À 9h15, les 2 chars de tête sont rejoints place de Haguenau par le Rouen, l'Oran et le Cherbourg du maréchal des logis-chefs Albert Zimmer, natif de la Vansonneau. 10 minutes plus tard, la colonne blindée franchit la porte de pierre. Rouvillois transmet le message codé qui informe Leclerc de son entrée dans Strasbourg, tissu et dans iode. Le général quitte Birkenwald à 10h30. Après une étape à Wiversheim, il pénètre dans Strasbourg au début de l'après-midi. À l'ouest de l'agglomération, la situation est plus périlleuse. De sérieuses escarmouches ont lieu à Königshofen, au début de la route des Romains. Une fusillade est mentionnée à la Museau. Les Allemands abandonnent le quartier de la Montagne Verte. Dans les rues des faubourgs, l'accueil est enthousiaste. Cependant, la prudence reste de mise. Des fanatiques tirent par les fenêtres. À la Méno, les chars reçoivent une grêle d'obus tirés par une batterie de 17 canons allemands. Ils forcent le passage à vive allure. À midi, ils atteignent le terrain d'aviation du polygone qui est désert. Les Allemands l'ont évacué avant d'incendier les hangars et les entrepôts. Le Gauleiter Robert Wagner, chef de l'administration nazie en Alsace, s'est éclipsé aux premières lueurs de l'aube. Le général Franz Vaterrode, gouverneur militaire de Strasbourg, quitte le palais du Rhin pour s'enfermer avec 626 hommes, dont quelques SS particulièrement déterminés, au fort né dans la forêt de la Robertsau. Les Français investissent le palais du Rhin. Le sous-lieutenant Stéphane Garnier en obtient la reddition moyennant le tir de quelques grenades et rafales de mitrailleuses. Le général Leclerc s'y installe. En début d'après-midi, la 2e division blindée tient les points stratégiques de Strasbourg. Des chars stationnent aux principaux carrefours du centre-ville. Partout ailleurs, la situation reste confuse. Strasbourg est soumise à de violents tirs d'artillerie. Guidé par Robert Flegg, résistant strasbourgeois des forces françaises de l'intérieur, Rouvillois se dirige vers Kehl à bord de sa jeep. Son avancée est interrompue par une vive résistance allemande. Vers 16h, les chars Meknès et Cherbourg sont détruits au port du Rhin. Albert Zimmer trouve la mort, tout comme le père Jean-Baptiste Houchet, aumônier catholique de la division. Il est touché devant le pont de Kehl, alors qu'il secourt un soldat blessé sous le feu. Robert Flegg décède au même endroit. Pour la 2e division blindée, la cathédrale est une véritable obsession. Au début de l'après-midi du 23 novembre, Maurice Lebrun, Joseph Calmejane, Claude Laborie et Robert Larbeg du 1er régiment de marche des Spahis marocains entament son ascension. Ils atteignent la plateforme, puis le chef de char Lebrun grimpe seul l'étroit escalier de la flèche. Lentement, il se hisse le long de l'échelle de fer et place un drapeau tricolore de fortune orné de la croix de Lorraine, confectionné dans l'urgence en fin de matinée à la charcuterie Lorenz, 4 place Saint-Étienne. Le lendemain, il est remplacé par un drapeau plus conforme. Durant plusieurs jours, la 2e division blindée et les forces françaises de l'intérieur de Georges Kieffer, alias commandant François, nettoient les îlots de résistance. Les actuels quartiers de l'Esplanade, où se trouvent de nombreuses casernes et du port du Rhin, présentent les difficultés majeures. Dans la nuit du 27 au 28 novembre, les derniers soldats allemands se replient de l'autre côté du Rhin et font sauter les ponts de Kehl. Les libérateurs font prisonniers plus de 5 000 militaires et 15 000 civils allemands. Le général Vaterrode passe 48 heures dans son repaire de la forêt de la Robertsau. Le 25 novembre, pour obtenir sa reddition, les Français bombardent le fort Ney. En milieu de journée, un millier d'obus s'écrasent sur l'ouvrage militaire. Les Allemands cessent le combat peu après 13 heures. Le dimanche 26 novembre, après 3 jours de combat, Strasbourg reprend une vie plus ordinaire. Une prise d'armes se déroule place Kléber alors que 8 appareils de la Luftwaffe survolent la ville. Vers 11h, Leclerc donne une réception dans le salon de la Villa Matisse. Alfred Federlin, le maire provisoire, lui présente les principaux notables. Le 6 décembre, la brigade indépendante d'Alsace-Lorraine, commandée par André Malraux, alias Colonel Berger, s'installe dans les faubourgs de Strasbourg pour prévenir toute incursion des troupes allemandes qui tentent régulièrement de franchir le Rhin de nuit. le 1er janvier 1945, les Allemands engagent une contre-offensive appelée Opération Nordwind, vent du Nord. Elle se déroule dans des conditions climatiques extrêmes. Le 3 janvier 1945, le général Dwight Eisenhower suspend sur les instances de Winston Churchill l'ordre d'évacuation de Strasbourg donné le 28 décembre pour renforcer le front de l'outre-forêt. Les Allemands franchissent le Rhin et se fortifient dans Gamsheim. Au terme de 3 semaines de combats intenses, dont la bataille de Kielstedt, Gamsheim est repris le 30 janvier. Au sud, d'autres unités de la Wehrmacht prennent Gerstein et menacent Erstein. Notons l'héroïque résistance du 24e bataillon de marche de la 1ère division française libre qui est anéanti à Obenheim le 11 janvier 1945. Le 21 janvier, les forces allemandes se rapprochent de Strasbourg. Elles sont arrêtées au Fuchsenbuckel, à l'entrée de la Robertsau. Strasbourg connaît son ultime bombardement de l'artillerie allemande le 16 avril 1945 dans le secteur du Petit Broglie. L'hôtel de Klinglin, résidence du préfet, emporte aujourd'hui encore les stigmates, tout comme le palais du gouverneur militaire. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour trois livres qui a été préparée comme de tradition par Emmanuel. C'est Robert Charlebois qui nous accompagne en chanson. Nous allons écouter un titre de 1971 dans l'album Un gars bien ordinaire qui s'intitule tout simplement Ordinaire.
Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerai du pot, je boirai de la bière. Je ferai de la musique avec le gros Pierre. Mais faut que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire. Vous voulez que je sois un dieu. Si vous saviez comme je me sens vieux. Je peux plus dormir, je suis trop nerveux. Quand je chante, ça va un peu mieux. Mais ce métier-là, c'est dangereux. Plus on en donne, plus le monde en veut. Quand je serai fini, puis dans la rue, mon grand public, je l'aurai pu. C'est là que je me retrouverai tout nu. Le jour où moi j'en pourrai plus, il y en aura d'autres, plus jeunes, plus fous, pour faire danser les bougalous.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, en commençant par L'escadron volant de Muriel Romana aux éditions Albin Michel. Nous voici plongés dans la cour de Catherine de Médicis. Cette dernière est la seule à croire Nostradamus qui a prédit la mort de son époux Henri II. Lorsque la prophétie se réalise, celle qui était une femme délaissée et une reine effacée est propulsée au premier rang. Déterminée à traquer le meurtrier du roi, elle crée l'escadron volant, c'est-à-dire 4 demoiselles d'honneur aussi sensuelles qu'intelligentes, prêtes à tout pour réussir leur première mission. Elles mettent leur corps au service de l'État et les hommes à leurs pieds. L'escadron volant de Muriel Romana, c'est aux éditions Albin Michel, et une précision, c'est le premier tome. La splendeur des Crespi d'Alessandra Selmi aux éditions Albin Michel. Voici le roman d'une cité ouvrière inscrite au patrimoine de l'UNESCO. En 1877, nouveau propriétaire d'un terrain sur les rives de l'Adda en Lombardie, Cristoforo Crespi, simple fils de teinturier, y fait construire une filature de coton. Mais son projet est bien plus vaste. Il va bâtir une véritable cité industrielle d'une modernité inédite, répondant à tous les besoins de ses ouvriers et de leurs familles. Désormais, l'histoire de Cristoforo est inextricablement liée à celle des siens et de tous ses employés. Pia, sa femme, est son principal soutien. Silvio, leur fils, partagé entre le poids de l'héritage familial et le désir de mener sa propre vie, la famille Malderbi, l'âme noire du lieu, ou encore les Agazzi, idéalistes et rebelles, sans oublier la jeune Emilia, le cœur battant du village. Mais face à cette belle utopie, arrivent les révoltes, la Première Guerre mondiale et la montée du fascisme. La splendeur des Crespi, c'est signé Alessandra Selmi aux éditions Albin Michel. Et toujours chez Albin Michel, c'est le fil rouge de cette chronique, Tout le bruit du Guélitz de Ruben Baruch. Dans le quartier du Guélitz à Marrakech, un mystérieux bruit hante et tourmente nuit et jour une vieille dame. Inquiet, sa fille et son petit-fils quittent Paris pour mener l'enquête. Sur place, ils guettent, épient, espèrent, mais aucun bruit ne se fait entendre. Voici le roman d'un quartier de Marrakech avec ses histoires d'exode, ses traditions, sous la forme d'un conte, tout en douceur. Ce roman a été nominé au Goncourt des lycéens cette année. Tout le bruit du Guélitz de Ruben Baruch s'est publié chez Albin Michel, et ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisé. C'est en chanson que nous nous séparons, avec toujours Robert Charlebois. Un de ses plus grands succès, c'était en 1968, Lindbergh, dans l'album éponyme.
Whisper, jet, clipper, jet, turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie Guy. Après l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, London, Eastern, Western, puis Pan American. Je sais plus où je suis rendu. J'ai été au sud du sud, au soleil, le blanc rouge, les palmiers et les cocotiers glacés. Dans les peaux aux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours la Sophie venait de partir,
partir
sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern.